Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et après l'après-gouvernement de transition au Tchad, vers l'apaisement ou un prolongement de la crise politique, c'est notre débat du jour. Mais d'abord, direction le Gabon.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Petit Lambert Ovono, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques et chargé de gouvernance à l'ITIE Gabon. C'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le Gabon exclut en 2013 de l'ITIE pour manque de transparence dans la gouvernance des industries extractives est à pied d'œuvre pour réintégrer l'initiative. Où en est le processus ?
Le processus se passe bien parce que la décision a été prise par le Conseil des ministres, présidé, comme vous le savez, par le président de la République, qui a donné des instructions fermes au ministre de l'Économie, qui est le ministère des tutelles, pour que le Gabon réintègre l'ITIE. À cet effet, les différents groupes qui constituent le groupe ITIE Gabon sont déjà constitués. Le groupe État est constitué, les entreprises privées constituées et la société civile également a déjà élu ses représentants. Une présidente du groupe Gabon a été nommée par le gouvernement. Donc, nous avons tenu hier la première assemblée générale pour examiner les différents textes réglementaires qui font que, après cela, le Gabon va présenter officiellement sa candidature pour réintégrer l'ITIE.
C'est depuis 2015 que le Gabon tente de réintégrer cet ITIE. Qu'est-ce qui a retardé cette réintégration ?
Et c'est surtout des problèmes de gouvernance. Il fallait aussi une volonté politique forte. Il faut souligner tout de même que depuis 2015 aussi, le Gabon a connu une chute drastique de ces matières premières et notamment du pétrole, et est venu s'ajouter à cela le Covid, la crise du Covid. Donc vous comprenez que tout cela a déstabilisé complètement l'économie gabonaise, et donc maintenant que nous avons fait un plan de riposte contre la Covid, le gouvernement a décidé de préparer le dossier de retour à l'ITIE. Comme vous le savez, le processus ITIE s'occupe de vérifier la production pétrolière, minière et gazière. Et toutes les recettes récoltées dans la vente de ces différents produits rentrent dans la fiscalité du Gabon. Et c'est grâce à cet argent, à ces recettes, à ces ressources, que le Gabon finance les programmes et les projets de développement pour lutter contre la pauvreté. Or, lorsqu'on a notre fiscalité qui a été divisée par trois et que les mesures qui ont été prises dans le plan de relance de l'économie concernaient notamment la révision des dépenses publiques, vous pensez donc qu'il est très très difficile en même temps de mettre un plan de retour à l'ITIE. Et enfin, comme je le disais aussi, nous étions en accord avec le Fonds monétaire international. Le Gabon avait un programme avec le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire avait presque mis une conditionnalité pour achever ce premier programme par le retour du Gabon à l'ITIE.
Cette tendance d'absence du Gabon de l'ITIE, quelles sont les conséquences sur la gestion des revenus issus des industries extractives ?
Mais les conséquences sont justement le manque d'entrée fiscale pour financer les différents programmes et les différents projets qui participent au développement, au changement des conditions de vie des populations. Donc, tant qu'il n'y a pas de transparence et même de bonne gouvernance, là je me situe dans mon rôle de représentant de la société civile pour la gouvernance, tant qu'il n'y a pas tous ces outils de bonne gouvernance, il n'y aura certainement pas un contrôle pointu en matière de fiscalité et par conséquent en matière de financement des programmes pour lutter contre la pauvreté.
Et à combien estimez-vous cette perte ? de recettes?
Je ne peux pas pour l'instant estimer cette perte de recettes. Vous savez très bien que si le Gabon avait été mis de côté dans les années 2013, c'est parce que les chiffres ne correspondaient pas entre ce que l'État déclarait et ce que les entreprises déclaraient. Il n'y avait pas de consensus, donc le nouveau départ consiste justement à renforcer la gouvernance.
Comment garantir que les pratiques qui avaient conduit à la suspension du Gabon ne refassent surface pour éviter une nouvelle mise à l'écart du pays?
C'est une très très bonne question. En fait, c'est la présence de la société civile doit être plus dynamique, plus vigilante. Et je crois que c'est la mission qui nous a été confiée. Il faut d'abord que les membres élus de la société civile travaillent en synergie et chacun dans son secteur ait une chance qui nous est offerte, nous, société civile, pour montrer à la population gabonaise que la société civile travaille réellement pour la lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance.
À quelle date espérez-vous une réintégration du Gabon?
Au plus tard au mois de novembre 2021.
Petit Lambert Ovono, merci beaucoup.
Merci à vous.
Évaluateur certifié des politiques publiques et chargé de gouvernance à l'ITIE Gabon, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue dans votre émission. Si vous nous rejoignez, certains partis et membres de l'opposition tchadien rejettent le gouvernement de transition réuni au sein de la coalition Wakitama. Ils appellent à une nouvelle journée de manifestation ce samedi. Alors faut-il constater l'échec du conseil militaire de transition à s'imposer? La crise politique est-elle en voie de règlement ou plutôt faut-il s'attendre à ce qu'elle dure? Nous en parlons avec trois invités. Théophile Bongoro, président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad, le Parti Prêt, et candidat recalé de l'Alliance Victoire à la dernière présidentielle. Monsieur Bongoro, qui va nous rejoindre dans un instant. Nous avons également Dr Sitak Yomatinan Beni, constitutionnaliste, enseignant à l'Université de N'Djamena et à l'Université catholique de Yaoundé au Cameroun. Et avec nous également, le professeur Avoksuma Jona Atienemu, membre du bureau exécutif de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau de l'opposant Saleh Kebzabo. Bonsoir, monsieur Atienemu. Allô?
Bonsoir.
Vous m'entendez, messieurs? Merci beaucoup.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé de dénoncer l'entrée de votre parti dans le gouvernement d'Union nationale?
Premièrement, avant les élections, nous avions eu des exigences particulières. Premièrement, nous sommes pour la transition démocratique du pouvoir. Deuxièmement, nous sommes contre la transmission dynastique du pouvoir. Troisièmement, nous sommes pour le dialogue inclusif. Or, vous avez tous suivi que le CMT, c'est-à-dire le comité militaire de transition, est contre le dialogue positif inclusif. Ils ne veulent pas discuter avec les soi-disant mercenaires.
Vous voulez parler de la rébellion du FAT?
Voilà. Mais il n'y a pas que la rébellion du FAT. Il y en a d'autres. Parce que dans ce pays, vous n'avez que des gens qui vont et qui viennent et qui vont et qui viennent. Ça fait déjà des années et des années. Il va falloir qu'on arrête avec ça. Et pour arrêter avec ça, il faut bien qu'on dialogue avec quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas dialoguer en étant un seul individu. Le dialogue, ça veut dire au moins vous êtes deux. Ce n'est pas un monologue. Or, le CMT n'est pas disposé à pouvoir dialoguer avec tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut que nous allions vers la réconciliation nationale et qu'on réfléchisse sur la meilleure façon possible de pouvoir construire la paix. Et sur ce point-là, nous demandons à ce que le pouvoir accepte ça, y compris avec nos partenaires. Vous dites le deuxième que... élément le plus important, c'est que... Oui.
Oui. Allez-y. Allez-y.
Le deuxième élément qui est vraiment important, voilà, le deuxième élément qui est important, c'est que, écoutez, de tout temps, depuis 1975, le pouvoir s'est toujours transmis par la violence. Et nous ne pouvons pas tout le temps continuer à faire ça, parce que notre parti qui a été créé depuis 1992, nous sommes pour l'alternance démocratique.
D'accord.
Tout le temps que Idriss Déby était au pouvoir, en 30 ans, il n'a jamais accepté ça.
Mais M. Atchenemou,
aujourd'hui,
est-ce que ce n'est pas votre parti qu'il faut convaincre? Je veux dire, vous dénoncez aujourd'hui le pouvoir Déby et la transition militaire, mais c'est votre parti qui a décidé lui-même de faire partie de ce gouvernement.
Oui, mais je peux comprendre ça, mais ça n'a jamais fait l'objet d'un consensus.
Vous en avez discuté au sein de l'UNDR ?
Pas tout à fait, parce que moi, personnellement, je n'ai pas été là, donc je ne peux pas dire que tout ce qui a été discuté a été accepté. Parce que, de toutes les façons, même si on était d'accord, dans la mesure où le CMT dit « nous ne sommes pas d'accord pour un dialogue inclusif, c'est-à-dire avec les rebelles », je pense que ça n'a pas de sens. Il faut bien qu'on réfléchisse sur les meilleurs moyens possibles de faire en sorte que désormais nous ne puissions plus repartir et voir d'autres Tchadiens qui vont prendre toujours les armes pour aller à l'extérieur parce que les mains extérieures ne sont pas toujours amicales. Vous avez toujours quelqu'un qui va nous donner des armes pour que nous puissions nous tuer. Donc, ce n'est pas parce qu'une partie de mon parti a demandé à ce que nous y allions, tout en sachant que ce n'est qu'un gouvernement de transition, tout en sachant que d'ici 18 mois, il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres modalités organisationnelles, que moi, je peux être totalement d'accord.
Oui, mais en refusant de vous aligner sur la position de votre parti, en quelques mots, hein, M. Atchenemou, est-ce que vous ne risquez pas d'entraîner une scission de ce qui était jusque-là le principal parti de l'opposition, l'UNDR?
Non, le parti, c'est un grand parti. À l'intérieur, il y a toujours eu des contradictions. Je n'ai jamais demandé à quitter le parti. Je pense que...
Mais vous pouvez en être exclu.
La discussion à l'interne.
Mais vous pouvez en être exclu,
mais,
peut-être.
Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Je ne pense pas qu'on en arrivera là.
Merci beaucoup.
On va avoir une grande réunion. On aura une grande réunion demain. Et puis, le président a dit qu'on avisera. On avisera.
Merci, M. Atchenemou. Et je rappelle que nous n'arrivons pas... pour l'instant, à joindre nos deux autres invités, Théophile Bongoro du Parti Prêt et Dr Sitak Yomatinan, béni constitutionnaliste, enseignant à l'Université de N'Djamena et à l'Université catholique de Yaoundé au Cameroun. Mais nous avons le plaisir d'être rejoints par Emmanuel Dupuy de l'IPSE. Monsieur Dupuy, bonsoir.
Bonsoir, Liliane.
Voilà, vous avez entendu les raisons, je ne sais pas si vous avez entendu dès le début les propos.
Une partie.
Voilà, de M. Atchenemou qui est contre la position de son parti, le parti de Saleh Kebzabo, de rejoindre le gouvernement d'Union nationale. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement d'Union nationale, finalement, au lieu d'être un élément de cohésion, est en train de créer la division, peut-être au sein de l'opposition?
Je crois que la division était déjà là. Hein. Premièrement, il y avait les partis qui avaient appelé à manifester dans la rue et d'autres partis qui ont de nouveau, samedi dernier, et d'autres qui ont appelé à manifester samedi prochain à l'initiative donc de la mouvance citoyenne. Je pense notamment au mouvement Makitana qui a appelé à de nouveau manifester.
Samedi prochain,
le 8 mai, à N'Djamena et partout un petit peu dans et un petit peu partout dans le monde. Je le rajoute. Je crois que la division était déjà là, mais la division, elle n'est pas forcément au sein du NDR. Elle est surtout entre des partis qui acceptent finalement cette main tendue de la part de Albert Padimi Padaké, le nouveau premier ministre de transition. Je pense à l'UNDR, mais je pense aussi au PLD, puisque Hamad Alabo a accepté de faire partie également de ce gouvernement, en tout cas que son parti y siège.
Mais il occupe d'ailleurs le poste de ministre de la justice.
De la justice, absolument. Mais voilà, absolument. Il a non seulement accepté la main tendue, mais non seulement pour son parti, mais pour lui-même. Vous avez rappelé avec l'intervenant précédent que Salé Kedzabo, qui avait appelé d'ailleurs très tôt, dans la nuit qui avait suivi l'annonce du décès du président Idriss Déby, à un dialogue national inclusif qui s'accompagnait d'un cessez-le-feu. Peut-être qu'il faut appuyer sur cette nécessité d'élargir ce dialogue inclusif jusqu'au front pour l'alternance et la concorde au Tchad, ce qui pour l'instant est une fin de non-recevoir de la part du comité militaire de transition. Mais je vois plus une tension, une division qui se crée non pas au sein des partis traditionnels de l'opposition, mais entre les partis traditionnels que sont l'UNDR, par exemple, le FNC, pour l'instant, évidemment, Yahya Diallo Djeru n'a pas accepté de faire partie de ce gouvernement.
Les transformateurs de succès Masra.
C'est justement là où je veux en venir. Il y a une tension qui se crée avec une radicalisation très forte. Succès Masra a refusé la main tendue. Succès Masra a participé aux côtés des manifestants qui se sont exprimés dans la rue et ô combien dramatiquement, puisque le dernier bilan fait état de 15 morts, 100 blessés et près de maintenant 1000 arrestations. Et je sens évidemment une tension dans la salle de recevoir, par exemple, du dialogue entre Succès Masra et le Premier ministre Albert Padami Padaké, le premier ayant refusé de se rendre à l'invitation du Premier ministre. Donc je sens qu'il y a non pas une tension au sein de l'opposition, mais une forme de radicalisation d'une partie de cette opposition.
Justement, mais est-ce que cela ne fait pas l'affaire finalement du CMT, en quelques mots, Monsieur Dupuis ?
Oui, bien sûr, ça fait l'affaire du CMT, en mettant en avant le fait que l'opposition radicale se singularise par sa volonté de ne pas dialoguer, ou dans sa volonté d'avoir son propre agenda, qui n'est pas l'agenda et proposé par le CMT. Alors, il est critiquable car il est inconstitutionnel, on y reviendra sans doute avec votre intervenant, mais il est surtout dicté un peu par la communauté internationale, par l'urgence aussi de la mission de l'Union africaine qui s'est donnée 15 jours à partir du moment où le dialogue politique inclusif se mettait en place. Donc il y a effectivement une sorte de jeu de domino où la mission de l'Union africaine pour statuer si oui ou non le Tchad doit être exclu selon l'article 30 de la Charte constitutive de l'Union africaine, participe aussi de cette accélération du calendrier.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Atienemou, l'opposition, on a perdu Monsieur Atienemou. Alors, je vais terminer avec vous, Monsieur Dupuis. L'opposition, en appelant à une nouvelle manifestation samedi prochain, ne risque-t-elle pas d'aller vers une confrontation, une nouvelle d'ailleurs, entre manifestants et forces de l'ordre, à l'image de ce qui s'est passé il y a exactement une semaine ?
Hélas, oui, et il faut le craindre et il faut s'en désoler avant que ça n'arrive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester, hein. C'est évidemment le droit des Tchadiens d'exprimer une sorte d'incompréhension de l'orientation qui est actuellement prise par ce gouvernement de transition, une transition qui se met en place pour 18 mois, c'est un peu long, une transition qui brave un peu la Constitution, en mettant en exergue la non-application de l'article 81 et de l'article 82. Évidemment, une radicalisation de la part du camp gouvernemental qui estime que maintenant la main a été tendue et qu'elle peut la retenir ou évidemment ne plus la proposer. Et puis bien évidemment un autre agenda, il ne faut pas l'oublier, que dans le Kanem, à 270-300 km au nord de N'Djamena, les combats font encore rage. Le CMT estime que c'est son rôle d'opérer une action militaire
Merci Monsieur Dupuis, et je vous propose de rester avec nous dans quelques petites secondes. On va entendre Monsieur Ibedou Mahamad, secrétaire général de la Convention tchadienne des droits de l'homme à N'Djamena, qui vient juste de nous rejoindre dans cette émission. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Avec la nomination du gouvernement de transition au Tchad, la crise politique est-elle en voie de règlement ou va-t-elle encore durer? Nous en débattons ce soir avec professeur Avoksouma Djona Atienemou, membre du bureau exécutif de l'UNDR, le parti de l'ancien chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo, monsieur Emmanuel Dupu de l'IPSE et Mahamat Nouribedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme que nous espérons avoir retrouvé. Monsieur Ibedou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Alors, vous avez appelé à de nouvelles manifestations samedi prochain. Est-ce que vous ne redoutez pas des tensions comme on en a vu la semaine dernière?
Oui, même... Avant la marche qui avait été réprimée, nous nous attendions à ce genre de répression. Ça ne nous a pas empêché de sortir. Bon, mais là, franchement, les répressions nous motivent plus qu'elles nous dissuadent. Hein. Parce que là, nous avons pris la température avec les jeunes et la marche de samedi risque d'être encore plus importante que celle de la dernière fois. Et à vrai dire, nous ne redoutons pas ça.
Vous êtes déterminé?
Oui.
Vous dites que les jeunes sont mobilisés et que la violence vous motive plutôt. Cela veut dire que vous êtes confiant, oui. Vous êtes convaincu que samedi prochain, les Tchadiens se mobiliseront pour et répondre à votre appel? Et répondront à votre
Absolument.
Appel?
Absolument. Parce que l'enjeu pour lequel ils doivent... ils doivent poser cet acte citoyen-là est quand même assez important. Et c'est à la mesure de ce qu'on cherche à nous imposer. Bon, là, nous voulons que le Tchad, qui a été trop meurtri, puisse décoller normalement. Ça veut dire que pour nous, nous avons une opportunité formidable, après la mort de M. Déby, de poser les jalons d'un Tchad, d'un autre Tchad nouveau, avec un dialogue inclusif qui va inclure toutes les parties en présence, internes comme externes, surtout l'opposition armée, ne laisser personne les comptant dehors, en dehors de ce cadre. Et nous comptons discuter de tous les problèmes du pays. Et pour nous, le plan il est là, il est simple. Un dialogue inclusif avec... de la nomination d'un premier ministre consensuel, un gouvernement de coalition, qui va poser les jalons d'un cadre nouveau.
Mais monsieur Ibedou, il y a déjà certains membres de l'opposition qui sont entrés au gouvernement. On l'a dit avant que vous ne nous rejoigniez. Finalement, est-ce que vous ne craignez pas que vous arriviez à une situation de division qui éloigne la perspective d'un combat uni?
Oui, enfin, bon, ceux qui ont quitté nos rangs pour entrer dans ce gouvernement-là, ce sont les partis politiques. Ce n'est pas les organisations.
La société civile.
La société civile, elle est restée intacte et elle parle d'une seule voix. Bon, vous comprenez, les hommes politiques ont des réactions différentes de celles des leaders de la société civile parce que. Et ils cherchent le pouvoir, ils ont pour vocation à chercher le pouvoir. Et il leur arrive des moments où ils peuvent être un peu plus souples, un peu plus, je ne sais pas, au gré des événements.
Merci.
En tout cas, ils cherchent, ils ont des calculs.
Ce qui n'est pas le cas selon vous, la société civile. On va laisser le temps. Merci, monsieur Ibedou. Restez avec nous encore quelques minutes. Je sais que vous nous avez dit que vous ne resterez pas jusqu'à la fin de l'émission, mais on espère vous réentendre dans un instant. Monsieur Atienemou, comment expliquez-vous justement cette dissension au sein de l'opposition, contrairement à la société civile, on vient de l'entendre, monsieur Ibedou, qui est resté soudé face à sa demande d'un gouvernement civil ou d'une transition civile?
Mais vous-même, vous avez suivi la façon dont
le CMT a été mis en place. Le CMT est arrivé en place et pour nous, ce n'est qu'un coup d'État. Or, dès lors que vous rentrez dans une perspective de coup d'État, il faut qu'on réfléchisse sur les meilleures façons de pouvoir revenir à la vie civile. Manifestement, tout ce qui a été fait, que ce soit la nomination du Premier ministre, que ce soit par rapport au gouvernement, etc., etc., ça ne respecte pas aux normes souhaitées.
Je comprends bien ce que vous dites, monsieur Atchinemou. Oui, ça ne répond pas, vous l'avez dit, que vous êtes contre, vous appelez à manifester parce que vous voulez une transition démocratique, vous ne voulez pas de transmission dynastique du pouvoir, vous voulez un dialogue inclusif, mais vous n'avez pas obtenu tout cela. Mais là, n'empêche que il y a certains de vos camarades de l'opposition qui sont allés quand même entrer dans ce gouvernement. Pourquoi ?
Il y en a certains qui peuvent accepter.
Oui.
Il y en a certains qui peuvent accepter. Pour qu'on soit tous alignés comme des moutons en disant que voici ce qui va se passer, c'est ça qui va être bien. Quand vous regardez la façon dont le fameux transition a été mis en place avec 40 bonhommes, dont 9 femmes, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une feuille de route, il n'y a absolument rien du tout. Partons pas sur la base d'une véritable politique de réconciliation nationale. Mais s'il n'y a pas de politique de réconciliation nationale, nous sommes dans un pays où les gens ne font que la guerre depuis des années et des années et des années. Est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? On ne peut pas continuer comme ça parce que même si on allait dans ce gouvernement, on se rendra compte que dans un an ou dans deux ans, il y a toujours quelqu'un qui prendra l'arme pour encore revenir et renverser le système qui est mis en place.
Merci.
Jusqu'à où on va continuer par rapport à cette hérésie-là?
Oui. On a retrouvé l'autre invité, Théophile Bangoro. Monsieur Bangoro, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Président du parti Prêt, on a eu du mal à vous avoir ce soir. Vous faites partie de cette coalition qui a appelé à la mobilisation samedi prochain. Nous avons déjà évoqué l'inquiétude relative à peut-être à ce risque de répression, mais je voudrais vous interpeller sur l'appel lancé par le CMT à l'opposition de discipliner et d'encadrer ces manifestants pour éviter des actes de vandalisme. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Bonjour madame et bonjour aux autres panélistes. Je m'excuse parce que là je viens de finir en compte avec l'Union africaine avec qui on a pu prendre contact immédiatement pour échanger un peu sur le sujet de l'heure. Alors, revenant à votre sujet, je pense à mon avis que c'est un peu de l'intimidation. Parce que le pouvoir, il a le pouvoir régalien, comme on le dit. C'est à lui, normalement, de canaliser les marches, les manifestations, de sorte à éviter le vandalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la répression n'était pas de mise, et que si la police jouait son rôle un peu de force de proximité, assorti des conseils d'orientation, d'encadrement, on n'en serait pas arrivé là. Donc, vous ne pouvez pas demander à ce qu'on puisse faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc le pouvoir a plutôt intérêt à discipliner les forces de l'ordre. Et de quel comportement peut influer le comportement maintenant des manifestants, les forces de ce qu'ils puissent se mettre aussi dans le même tuyau. Mais si vous opposez la force, on vous opposera la force.
Donc c'est-à-dire que samedi prochain, lors de cette manifestation, elle se déroulera comme la précédente?
Non, ça dépend de la réponse que les forces de l'ordre qui sont sous la coupole de l'État, vont donner aux manifestants. Si c'est envoyer les lacrymogènes, mater les gens, c'est sûr, on leur opposera la force. Vous savez, le début de la manifestation, depuis le 13 mars, à la date de ce jour, est allé crescendo. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Au départ, les manifestants repliaient tout de suite. Mais ces derniers temps, ils se manifestent un peu de la résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la force de l'ordre. Ne fait plus peur, comme on dit, la peur du gendarme dès le début de la sagesse.
D'accord.
Ça a changé au point qu'on oppose à la force. Donc c'est l'État qui est en train de courir le risque et qui met les gens dans la rue.
Monsieur Dupuis, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, mais je préfère qu'on entende encore Monsieur Bangoro. Un mot justement sur cette mission de l'Union africaine, Monsieur Bangoro, qui séjourne dans votre pays depuis quelques jours. De quoi avez-vous discuté?
Écoutez, nous, la composante politique de Wakitama, nous avons fait un document, un mémorandum, plus un schéma de sortie des crises, que nous sommes venus leur remettre à notre demande ce soir, parce qu'ils n'ont rencontré qu'une partie de l'opposition. Alors que l'opposition, elle est plurielle. Il y a des gens qui exercent à seul, il y a des gens qui exercent dans le cadre d'une coalition. C'est notre cas. Et nous avons mené une réflexion tendant à pouvoir d'abord dire ce que nous pensons de cette crise dans notre appréciation politique et de comment s'en tirer. Et c'est ce document-là autour duquel nous avons pu discuter tout de suite à l'hôtel Radisson. Mais l'UIA, comme vous le savez, l'UIA, elle est politique. Elle nous dit que la solution revient aux Tchadiens. En conclusion, c'est ça. Et qu'ils ne font qu'accompagner.
Vous avez informé l'UIA de votre intention, de votre appel à manifester samedi prochain. Et qu'est-ce qu'elle en pense?
Ben oui, on en a parlé pour dire qu'il faut plutôt amener le pouvoir à pouvoir mettre du bémol dans sa manière de traiter les manifestations et d'ouvrir les véritables débats. Parce que le problème, il est celui-là. C'est de faire asseoir les gens et travailler avec l'avis de tout le monde. Mais quand on force, on fait un passage en force en mettant un premier ministre qui n'est pas consensuel. Et lequel premier ministre qui est déjà n'est pas consensuel, force encore en mettant un gouvernement qui taillé à sa mesure, il se trouve que personne n'y trouvera son compte. Donc la présente majorité des Tchadiens se trouve exclue de ce processus, au point que la réponse ne peut être que la violence. Alors si l'État veut, l'État organise des sortes à ce qu'on canalise les énergies tendant à nous asseoir pour couper la porte à la vie ou bien faire un jumel à Salomon. De sorte à ce que l'avis de tout le monde soit pris en compte.
Et quand vous dites que l'UIA est politique, qu'est-ce que cela signifie de manière concrète?
Ben oui, mais quand elle nous dit que la solution appartient aux Tchadiens, alors qu'est-ce qu'elle est venue faire?
C'est-à-dire que la mission de l'UIA ne va pas dans le sens que vous souhaitiez?
Non, parce qu'ils nous ont dit qu'au fini, c'est les Tchadiens qui décideront des biens qui leur concernent. Le bien, c'est qui leur paraît pas bien. Et qu'ils ne font que nous accompagner. Or, ailleurs, lui a fait plier les régimes un peu durs, en prenant des mesures.
Donc, vous attendiez de l'Union africaine qu'elle prenne des sanctions contre la junte au pouvoir?
Normalement, qu'elle frappe du poing sur la table pour dire que ça doit s'arrêter. Mettez tout le monde d'accord, faites vite aller à la table ronde, sortez quelque chose de consensuel pour que le pays avance.
Merci.
On ne va pas venir faire les comptabilités macabres plus tard. Il faut agir maintenant et c'est tout de suite.
Merci. Monsieur Dupuis, vous m'entendez?
Oui.
Je voudrais qu'on revienne encore pour dire un mot sur cet optimisme affiché tout à l'heure par l'acteur de la société civile, M. Ibedou, de la Convention tchadienne des droits de l'homme, sur la mobilisation des Tchadiens. Vous y croyez, vous, après la répression de mardi dernier?
Oui, parce que la portée de la voix de Succès Massra et de son parti Les Transformateurs porte, parce que la société civile n'est pas divisée, comme ça a été mentionné précédemment, parce que le mouvement Macky Tana a évidemment appelé à une grande manifestation, parce que il y a un soutien de la part de la diaspora, notamment à Paris, ici avec le PACT, du reste a été reçu par le Conseil présidentiel pour l'Afrique et le Conseil Afrique du président Emmanuel Macron la semaine dernière. Et donc la mobilisation reste forte. Par contre, néanmoins, il faut qu'il y ait une sorte de vigilance citoyenne. Les forces de sécurité sont là pour sécuriser les citoyens tchadiens et non pas pour les brimer ou les opprimer. Bien évidemment, il s'agit de policiers et peut-être moins de la Direction générale des services de sécurité et des institutions, avec son nouveau nouveau chef, la personne donc du général Taher Erda.
Mais est-ce que ce scénario est à écarter samedi prochain?
Le scénario de la violence,
oui.
Vous voulez dire? Bah, écoutez, il semblerait quand même un peu compliqué pour le comité militaire de transition de procéder à une manifestation, de procéder à des arrestations violentes, alors même que la mission de l'Union africaine se trouve à N'Djamena. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a maintenant une double médiation qui s'est mise en place avec la facilitation du président Gazouani, le président mauritanien Gazouani et du président nigérien Bazoum. Ça aussi, ça va avoir une influence. Il y a ensuite l'offre qui a été faite par un certain nombre de pays du voisinage, je pense notamment au Togo, par le biais de Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui s'est rendu il y a quelques jours et qui a rencontré le général Mahamat Idriss Déby en mettant en avant l'expérience qu'avait été celle du Togo pour accompagner la transition militaire malienne. Et puis il y a la rencontre, il y a quelques heures, du président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso, et le président du comité militaire. Donc il y a un regard très vigilant des acteurs régionaux.
Merci.
Qui peut-être n'étaient pas là la semaine dernière.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Au Tchad, la crise politique est-elle en voie de règlement après la mise en place d'un gouvernement de transition? C'était dimanche. Nous en débattons ce soir avec Théophile Bongoro, président du Parti Prêt, candidat recalé de l'Alliance Victoire à la dernière présidentielle. Il est à N'Djamena. Nous avons également professeur Avok Souma Djona Atienemou, membre du bureau exécutif de l'UNDR, de l'ex-chef de l'opposition Saleh Kebzarbo, et également Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective de sécurité en Europe, ici à Paris. Alors, je vous redonne la parole, monsieur Atienemou. Monsieur Dupuis parlait tout à l'heure de la multiplication des initiatives de médiation pour aider à trouver une issue à cette crise politique au Tchad. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chance c'est une bonne chose, pardon?
Bon, à mon point de vue, il n'y a pas une initiative de trop, hein. Il n'y a pas une initiative de trop parce que c'est une situation totalement pourrie. Et il y a des années, il n'y avait aucune possibilité de dialogue. Donc si chacun, que ce soit en France, États-Unis, Union africaine, on se retrouve pour pouvoir amener les uns et les autres à se parler entre eux, ce n'est jamais quelque chose de trop à mon point de vue. Maintenant, je voulais juste repartir un tout petit peu en arrière. Le 27 avril, mais la population, surtout les jeunes, sont partis manifester pacifiquement. Et la plupart des gens qui sont venus leur tirer dessus, c'est la force militaire. C'est ce qu'on appelle un peu la garde prétoire. Ils n'avaient pas le droit de tirer sur une population qui manifeste pacifiquement. Si ils ont compris au niveau du CMT, que ça ne sert absolument à rien de tirer sur une population qui manifeste la façon pacifique, ça serait toujours une très bonne chose. Mais quoi qu'il arrive, sans dialogue dans ce pays ne va jamais avancer le plus loin possible.
Monsieur Atienemou, est-ce que vous ne manquez pas aussi de compréhension en levant le couvre-feu, en créant d'ailleurs un nouveau ministère de la réconciliation? Est-ce que le CMT n'a pas fait preuve de bonne foi?
Non, le couvre-feu là, ça a été créé juste pour par rapport à une situation qui s'est passée au nord. Mais le couvre-feu là a toujours existé depuis des semaines et des années.
Et le ministère de la réconciliation, alors, est-ce que ce n'est pas une preuve de la volonté du CMT d'aller vers un apaisement du climat?
Non. Mais la réconciliation, il faut que ça soit fait de façon concrète. On n'a toujours rien vu. Quelles sont les conditions concrètes qui ont été créées pour qu'il y ait une réconciliation?
Le ministère vient à peine d'être créé.
La négociation inclusive, non?
J'ai dit, le ministère vient à peine d'être créé. Est-ce que vous ne pouvez pas lui accorder peut-être un bénéfice du doute de voir à l'œuvre?
Oui, mais nous ne sommes jamais partis. Personne n'est parti attaquer le CMT. Personne. C'est simplement ce que nous permet la Constitution. Merci. Une cessation pacifique.
Merci.
Monsieur Bongoro, nous n'avons fait que ces droits-là.
Monsieur Bongoro, vous appelez donc à manifester samedi prochain. Si jamais les Tchadiens ne se mobilisaient pas, est-ce que vous en tireriez toutes les conséquences?
Non, je pense que ce n'est pas envisageable du tout, c'est votre cas de figure. Le terrain pour marcher est là parce que, vous voyez, on vient d'enterrer des morts pour une masse pacifique, comme disait tantôt le professeur Avoxuma, où les gens ont marché main nue. Ça veut donc dire quoi? On est en train de pousser le peuple à bout. Et c'est un jeu très dangereux. Le pouvoir, il est vrai, il a les armes. Mais la population, elle n'a que ses larmes. Mais à un moment donné, je pense que les gens risqueront de ne plus avoir même peur de char. C'est pourquoi il est impérieux, pour ne pas dire urgent aujourd'hui, de créer des conditions d'une conciliation nationale. Au lieu de prendre des mesures cosmétiques comme créer un ministère, il faut mettre sur pied une commission de réconciliation et de pardon.
Et à ce sujet, justement, le CMT avait annoncé des enquêtes sur la répression de mardi dernier. Est-ce qu'on sait ce qu'il en est?
Oui, mais nous, on ne voulait pas les enquêtes nationales. Les enquêtes nationales, autant pour moi. Il faut une commission internationale, une commission indépendante, parce que quand ce qui va se faire en vase clos à notre pays va être bâclé expressément dans le sens de ce que le pouvoir voudra. Mais pour que nous soyons sûrs que ces recherches, ces investigations vont aboutir, il faut une enquête internationale ou bien il faut une enquête mixte.
D'accord. Et ma question sur les leçons que vous tirez si jamais la manifestation les Tchadiens ne sortaient pas manifester comme vous leur demandez samedi prochain, est-ce que vous renonceriez à de nouvelles manifestations? Vous reconnaîtriez le pouvoir du CMT comme l'a fait le Saleh Kebzabo?
Non, il n'est pas question ici de reconnaître le pouvoir ou ne pas le reconnaître. Le mode de lutte, il y en a partout. On peut opter pour un mode qui ne met pas les enfants dans la rue. On peut opter pour les marges, les villes mortes où chacun reste soi, tape sur les caches usées. Ça fait un tintamarre, ça attire quand même l'attention. Donc si nous estimons que ça expose ceux qui se sont mis à nos côtés pour revendiquer ce qui leur est de droit, sont exposés, nous avons autre variante. Parce que à notre fin, il y a des gens qui réfléchissent de comment se prendre et de comment peut-être rebondir, de comment ajuster.
Merci.
Donc, il est hors de question aujourd'hui. Nous sommes à une sorte de foire d'empagne où le pouvoir normalement doit faire part blanche, mettre de l'eau dans son vin, de sorte à comprendre la revendication du peuple.
Et en 40 secondes, M. Bongoro, comment voyez-vous finalement l'issue de cette crise avec cette mobilisation que vous appelez samedi prochain? L'apaisement est définitivement très loin.
La sortie de crise la plus urgente, il faut que la jeune se démette après avoir reconverti le gouvernement qui l'a mis sur pied là, en un gouvernement pour nous organiser, à mettre une commission de réconciliation sur pied pour organiser les assises inclusives nationales. Et de quelles assises sortiront maintenant un gouvernement de transition? C'est la seule issue. Ça veut dire qu'au lieu de contester, simplement pour dire que nous ne voulons pas de ce gouvernement, si le pouvoir veut mettre un peu du bémol dans ce qu'il fait, c'est tout de suite de reconvertir le gouvernement actuel, lui donner 3 mois fermes pour qu'il puisse nous mettre une commission d'organisation de notre assise nationale sur pied, de quelle assise sortiront les institutions qui devaient nous conduire la transition jusqu'au bout aux élections ouvertes et transparentes.
Monsieur Dupuis, finalement, on se rend compte que la crise est loin d'être terminée.
Elle est d'autant moins terminée qu'il reste un élément dont on ne parle pas suffisamment, le maintien d'un danger que constitue encore l'avancée, ou en tout cas la résilience, si je puis m'exprimer ainsi, de l'union des forces pour la démocratie, pour
la rébellion du FACT.
Pardon, la rébellion du FACT, et non pas celle de l'ULDD, ça c'était il y a 10 ans. Et bien sûr, il faut avoir ça à l'esprit. Alors, une des raisons pour lesquelles sans doute tout ce qui a été dit aujourd'hui est vrai, et je partage le point de vue des militants, des droits de l'homme, des activistes et des opposants qui estiment que le CMT n'est pas légitime pour exercer le pouvoir, ou que le gouvernement de transition est d'emblée peu recommandable au sens littéral du terme, mais néanmoins, il faut avoir à l'esprit qu'il faut faire la politique des petits pas, et que la politique des petits pas commence par un début. Le début, me semble-t-il, est d'intégrer le maximum de personnes volontaires dans le cadre de cette transition. C'est le cas d'un certain nombre de partis.
Mais l'opposition, la partie de l'opposition qui a accepté d'en faire partie est vivement critiquée par...
Oui, on est bien d'accord. Mais il semblerait quand même que, eu égard au passé et politique des responsables qui ont accepté, qu'ils représentent une quantité, en sens littéral du terme, non négligeable, je ne dis pas majoritaire, non négligeable. L'UNDR, le PLD, le FNC sont de constitution respectables et ont toujours manifesté
des partis importants.
La légitimité de leur opposition au précédent régime, une voix qu'il faut entendre. C'est ça que je veux dire. De la même manière, Hachek Oumar lui-même, son passé au sein et ses 25 ans d'exil avant son retour au pays et sa mobilisation dans à peu près tous les mouvements de rébellion, que ce soit l'UFDD dont il fut vice-président aux côtés du général Mahamat Nouri également, sont de bonne volonté. Après, je ne suis pas là pour défendre quiconque. Je dis juste qu'il faut avoir à l'esprit qu'il y a aussi une actualité en dehors de N'Djamena, et que cette actualité en dehors de N'Djamena, c'est qu'il y a encore des combats qui sont menés à 300 km de la ville.
Merci Emmanuel Dupuis de l'IPSE d'avoir été avec nous. Merci au professeur Avoksuma Jona Atienemou, membre de l'UNDR, de l'ex-chef de l'opposition Saleh Kebzabo. Merci à vous, Théophile Bongoro, président du Parti pour le Rassemblement et l'équité au Tchad prête, et à Mahamat Nou Ibedou, du secrétaire général de la Convention tchadienne des droits de l'homme. Merci à vous.